et sa famille. On reprendra deux ou trois choses qui sont toujours d'actualité, mais la mutation sociétale actuelle, entre autres choses tout à fait passionnantes et interrogeantes, nous permet de travailler sur l'institutionnel d'une manière complètement différente, dans la mesure où ce qui est notre institution à nous devient très visible dans la mesure où elle est sévèrement attaquée par le mouvement de nouvelle institutionnalisation qui se joue à travers la mutation sociétale, puisque effectivement il semble bien que toutes les grandes mutations de notre société est à chaque fois réinitiée de nouveaux modèles institutionnels. Et c'est le cas encore cette fois. Et on va voir ensemble aujourd'hui à quel point ce que nous appelons l'institution et ce à quoi nous obéissons aveuglément peut apparaître aujourd'hui comme quelque chose de parfois peu productif ou même contre-productif, et ce que la mutation nous promet peut être, en tout cas à l'heure actuelle, tout à fait intéressant. Alors, bonjour, on a un peu de commencer. Alors, bon, pour celles et ceux d'entre vous, parce que j'ai déjà parlé des enfants que j'appelle les mutants, hein, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà subi à ce propos. Alors, on va voir que le fil est relativement le même, mais cette fois, sous l'angle des normes et des valeurs qu'un support sociétal installe et pérennise, et les effets de ces normes et de ces valeurs sur nos propres comportements professionnels, évidemment. Alors, cette mutation sociétale qui est devenue assez évidente pour un certain nombre d'entre nous dès le début des années 2000 concernant les enfants et les adolescents et les modes de fonctionnement qui peu à peu devenaient différents de ce dont nous avions l'habitude et qui nous perturbaient en ce qui concerne nos modes de fonctionnement éducatifs et psychothérapeutiques. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus clairement ce qu'on ne le voyait. On ne le voyait pas encore, enfin en tout cas, moi et les gens avec qui je travaille, ne voyaient pas encore clairement à quel point nos modèles institutionnels allaient être mis en évidence par un processus contradictoire, si je puis dire. Et effectivement, la mutation, elle attaque de manière tout à fait intéressante ce que nous appelons l'institution. Et ça nous a mis aussi en évidence que un modèle institutionnel émerge avec chaque nouvelle mutation. Alors, un petit préalable. C'est vrai que les choses bougent beaucoup en ce moment. Quand nous parlions de mutation et de mutants il y a 6 ou 7 ans, les gens s'insurgeaient un peu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont repris à leur compte cette histoire de mutation, voire même de mutant. Donc, on en est à un niveau de réflexion beaucoup plus global. Mais c'est vrai que il est difficile de ne pas s'inquiéter dans la mesure où ce qui nous saute le plus aux yeux, c'est ce qui est en train de disparaître. Ça n'est pas ce qui est en train d'apparaître. Puisque ce qui apparaît, c'est l'inédit, ça peut même être resté encore très peu visible, voire invisible pour beaucoup de monde, alors que ce qui disparaît, ça c'est quelque chose de particulièrement visible. Alors, c'est vrai que les mutations apportent, l'histoire le montre, apportent à chaque fois du pire et du meilleur. Le problème pour nous, qui sommes un petit peu en première ligne dans cet espace de mutation, première ligne tout simplement parce que nous nous occupons d'enfants et d'adolescents. C'est-à-dire de ceux qui sont en train de construire, à leur insu probablement, une nouvelle société. Et probablement qu'un certain nombre de choix et de non-choix de notre part peuvent avoir un effet considérable sur une ou deux générations. Peut-être plus même. Et on sait tous, surtout dans le registre de la systémique, que ce qu'on appelle un état stable, c'est pas quelque chose d'immobile. Ça relève d'une somme permanente de micro-régulation, c'est-à-dire d'un mouvement permanent qui permet ce qu'on appelle, vous savez tous ce que c'est que l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un processus permanent de micro-régulation, ça bouge tout le temps. C'est ce bouger tout le temps qui donne une relative stabilité. Et dans une situation comme celle de la mutation, beaucoup de gens ne pensent plus état stable, ils pensent immobilité à tout prix, que rien ne change. Et ça, c'est un vrai problème. En ce qui concerne le pire, on en est capable, évidemment. En ce qui concerne le pire, bien sûr, c'est ce qui nous amènerait du côté du pire, si je puis dire, sont nos nostalgies. Nos nostalgies et nos peurs du changement. C'est difficile d'éviter la nostalgie, on y passe tous, bien sûr. Ce qui pose aussi un énorme problème en matière de choix, c'est lorsque nous nous mettons à défendre à tout prix nos modèles éducatifs, nos modèles psychothérapeutiques, et évidemment, à notre su ou à notre insu, les normes et les valeurs qui les sous-tendent. On va y revenir beaucoup sur les normes et les valeurs, bien sûr. Et se mettre à vivre tout d'un coup nos modèles éducatifs et psychothérapeutiques comme quelque chose d'éternel, atemporel, etc., etc., alors que toutes ces choses-là sont des choses extrêmement mouvantes. Alors, cette posture du côté du meilleur, si je puis dire, elle implique de notre part d'accepter un retour à un processus d'essai et erreur. On déteste ça. On déteste ça pour la simple raison que depuis nos 10-12 ans, nous sommes passés à un autre niveau d'apprentissage, ce que Gregory Bateson appelait le deuxième apprentissage, qui consiste à fabriquer des petites boîtes de catégories qui, certes, rigidifient légèrement nos apprentissages, mais nous permettent de répondre à une quantité de situations de manière instantanée. Alors on a notre petite boîte, rapport à l'autorité, qui nous permet de résoudre instantanément tous les problèmes relatifs à l'autorité. On a une petite boîte, souffrance morale, etc., etc. Et le problème, c'est que les contenus de petite boîte, aujourd'hui, sont de moins en moins efficaces, de plus en plus obsolètes, et que nous avons à refabriquer des petites boîtes de catégories, ce qu'on appelle des classes d'objets, à la théorie des types. Gregory Bateson, il a utilisé tout au long de sa vie la théorie des types logiques. Donc des classes d'objets, on est obligé d'en refabriquer. Et pour ça, on est obligé d'y aller par tâtonnement, bien sûr, et d'accepter de se tromper, d'accepter de modifier un certain nombre de comportements quand on voit qu'ils ne fonctionnent pas. Et ça nous renvoie toujours à notre vieux compagnon des systémiciens, qui était Ernst von Förster, qui lui-même n'était pas psychothérapeute, c'est un ingénieur, un logicien, mais il était ami avec les systémiciens, il était ami avec Vaslavik, il était ami avec Maturana, il était ami avec tous les gens de Palo Alto. Et il nous a offert la première grande révolution dans la thérapie systémique, qui est la théorie de l'observateur. C'était la sortie, ce qu'on appelle la deuxième systémique. C'est lui qui nous l'a offert, cette personne d'autre. Et il nous a rappelé sans arrêt, il est mort il y a quelques années maintenant, la nécessité d'en venir à une éthique de responsabilité personnelle. Dans la mutation actuelle, ce concept d'éthique de responsabilité personnelle, il est devenu absolument central, parce que il semble bien que les gamins d'aujourd'hui soient complètement insensibles à la morale, qui est un objet hétéronome, on se rappellera tout à l'heure, dans la mesure où ils sont fabriqués, individualisés et autonomes. Mais eux, ils ont à construire une éthique de responsabilité personnelle. Et il est clair qu'ils ne le feront pas sans un petit coup de main de la part des adultes, à la condition que les adultes, bien sûr, prennent suffisamment conscience de ce changement radical et entrent en conversation de manière suffisamment précoce. Et quand je dis précoce, c'est précoce, hein, c'est pas à 8 ou 9 ans, hein, c'est beaucoup bien avant. Avec eux, de manière à les aider à construire un certain nombre de critères d'une éthique suffisamment potable, si je puis dire, socialement. On a un exemple. Cette mutation, je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est aperçu qu'elle avait commencé aux États-Unis une bonne quinzaine d'années avant d'apparaître en Europe. On a donc des quarantenaires aux États-Unis, on a un laboratoire à ciel ouvert avec les États-Uniens, et c'est pas brillant. C'est-à-dire du point de vue de la construction d'une éthique personnelle, il est clair que les enfants du temps étaient abandonnés à eux-mêmes à ce niveau-là. Et l'éthique qui en a émergé est globalement détestable. Parce qu'une éthique, c'est pas forcément bon, ça peut être parfaitement détestable. Ce qui définit une éthique, c'est ce que je fais, et la manière dont je le fais. Une éthique, elle se voit dans mes actes. C'est quelque chose qui ne se véhicule pas à travers la parole. Hein, là encore, von Förster avait utilisé une définition que j'aime beaucoup, qui est celle de Wittgenstein concernant l'éthique. Wittgenstein disait, il est clair que l'éthique ne se laisse pas mettre en mots. Et von Förster avait développé ça. Alors, bien sûr que la morale est un discours. Alors, naviguer dans la mutation, c'est ce qu'on essaie tous de faire hein, depuis quelques années, chacun à sa façon. Mais il me semble bien qu'il est plus facile de naviguer dans cette mutation en se donnant les moyens de comprendre ce que c'est une mutation. Parce qu'aucune et aucun d'entre nous n'était préparé à vivre ça, à un jour où la dernière avait eu lieu au XVIIIe siècle, celle qui nous a façonnés, la forme d'intelligence qu'est la nôtre, la forme de sensibilité qu'est la nôtre, elle est un héritage direct de la mutation du XVIIIe siècle. Elle n'a pas bougé, c'est ça qui est assez surprenant et amusant, c'est que la forme d'intelligence qu'est la nôtre n'a pas varié d'un iota entre le XVIIIe et la fin du XXe siècle. Ça, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. C'est même la seule chose en trois siècles qui n'est pas bougée du tout. Le reste a pas mal bougé, hein, je veux dire, quand même. Mais là, forme d'intelligence, rien. Pas bougé du tout. Alors, donc se donner un regard, il me semble qu'on ne peut pas entrer dans une intelligibilité de cette mutation sans se donner un regard historique qui nous est très utile, hein, un regard anthropologique et puis bien sûr un regard épistémologique. Et ça nous oblige effectivement à élargir complètement notre regard par rapport à la pratique, et s'apercevoir bien sûr que nos pratiques reposent sur toutes ces choses-là, même si ce ne sont pas des repères conscients. J'étais amusé il n'y a pas très longtemps. Je reprends toujours dans la perspective historique les écrits d'Augustin, saint Augustin. Et qu'est-ce que je trouve, hein, je parle toujours de nouveau, moi. Et qu'est-ce que je trouve, Augustin n'arrêtait pas de parler de nouveau. Il disait l'homme nouveau pense ceci et cela, contrairement à l'homme du passé qui est l'homme romain, l'homme nouveau, etc. C'est-à-dire que c'est déjà ce que j'ai posé de manière relativement arbitraire comme la première grande mutation de notre société occidentale, à savoir l'installation du religieux chrétien sur les ruines du monde romain. C'est pas si arbitraire que ça, dans la mesure où on va voir que l'institutionnel fort, il semble bien qu'il ait démarré là. À savoir que en moins de 50 ans, vous savez, l'Empire romain, il était constitué de préfectures. L'Empire romain était énorme, hein, Mare Nostrum. Hein, chaque préfecture était évidemment dirigée par un préfet. Et en moins de 50 ans, tous les préfets sont devenus des évêques. C'est-à-dire que l'Église chrétienne s'est institutionnalisée de façon extraordinairement massive. C'est une réussite institutionnelle inédite. Ça. Et il est évident qu'à partir de là, les difficultés que l'Église a toujours connues, ça a été entre le discours de l'Évangile et les nécessités institutionnelles. Toujours, et ça n'a jamais cessé, hein, cette difficulté et cette même impossibilité à se rejoindre, évidemment. Alors, quelques repères théoriques dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, hein, mais il me semble que ça va nous permettre de nous remettre à niveau ensemble. Le concept de personnalité de base. On va le reprendre ensuite d'une manière un peu différente. Alors ça, c'est un acquis vraiment très intéressant. Je crois que Jacques avait mis dans la pub de la journée, hein, je crois que tu avais mis toute une série de textes où il y a ça dedans. Le fait que les membres d'une même société montrent les mêmes façons d'exprimer leurs émotions et de se comporter dans certaines situations typiques, hein, ça c'est quelque chose de tout à fait intéressant, parce qu'on a l'impression d'être des êtres uniques, etc., etc. Et puis en fait, dès qu'on est un petit peu attentif, on s'aperçoit bien que tous, nous savons, sans avoir à y réfléchir une seconde, la face, les bonnes manières de se comporter selon les contextes et les endroits où nous sommes. On n'a pas à réfléchir une seule seconde pour savoir si nous pouvons parler fort, parler doucement, ne pas parler, rire, pas rire, nous montrer sérieux, etc., etc. Ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et qui est apparu, là encore, d'une manière... on n'a pas pu éviter de s'en apercevoir à nouveau dans la mesure où les enfants d'aujourd'hui montrent une personnalité de base différente de la nôtre. Là encore, Murray Bateson, j'espère que vous le lisez de temps en temps, parce que c'est vraiment notre grand-père, hein, quelqu'un qui restera, je crois, longtemps important, étant donné la qualité de ses logiques et de son épistémologie. Hein. Alors lui, il subdivise, rappelez-vous, entre éthos et eidos. Hein. Et pour l'éthos, on a une illustration tout à fait extraordinaire et contemporaine, hein, de la puissance de l'éthos. Hein, l'éthos, dit-il, c'est ce qui organise les instincts et les émotions dans une société. Et les instincts, c'est quoi? C'est la sexualité et l'agressivité. Toutes les sociétés, sans exception, hein, prescrivent très étroitement les bonnes manières d'utiliser le sexuel. Et on a une illustration du caractère impératif de ces prescriptions avec la panique actuelle concernant ce qu'on appelle en France le mariage pour tous. Les Français en ce moment sont dans une panique absolue. Autour, je dis les Français parce que dans d'autres pays ça réglé depuis longtemps, mais le problème de la France à ce niveau-là, c'est effectivement que l'institutionnel est beaucoup plus puissant que dans d'autres pays, comme par exemple la Belgique. Et d'autres pays d'Europe aussi, bien sûr. Alors, cette prescription sociétale de la bonne manière d'utiliser le sexuel, il est clair que ce qu'on appelle le mariage pour tous vient l'attaquer de manière frontale. Et vous avez peut-être suivi, plus ou moins près, c'est pas très passionnant, je dois dire, hein, l'extraordinaire mobilisation en France, là-dessus, c'est invraisemblable. Vous savez, tous les jours, vous dites, c'est pas possible. Hein? Mais si, c'est possible. Et ça relève de ça. Ça relève effectivement du fait que l'éthos prescrivait que ça ne pouvait pas exister. Ça. Et l'éthos, rappelez-vous, ça c'est quelque chose qui nous intéresse au plus haut point au quotidien, hein, puisque c'est la manière dont on s'organise la perception. À savoir, nos sens fabriquent des objets, mais chaque objet est aussi fabriqué par des présupposés culturels, hein, c'est-à-dire par des prescriptions éthologiques. En fait, tous les objets visuels obéissent à des règles qui sont toutes connues de nous. C'est ça qui est superbe dans le façonnement psychosociétal. Hein, c'est qu'on n'a jamais appris ça, mais on connaît tous la bonne place des objets visuels. Et ce qui montre qu'on la connaît, c'est que chaque fois qu'un objet visuel n'est pas à sa place, on ne peut pas ne pas le voir. Alors, quelques définitions, instituer, instituant, institutionnalisation, institution, après la personnalité de base, l'éthos et l'éthos. Alors, ce qu'on appelle l'instituer. L'instituer, c'est ce qui, dans une société, va de soi, puisqu'il est posé comme un mode de fonctionnement universel. Il est le reflet de l'ordre établi. Et c'est ça qui va nous intéresser le plus, c'est qui prescrit les normes et les valeurs. On va voir de quelle manière les normes et les valeurs sont prescrites, et represcrites. L'instituant, c'est ce qui nous arrive. L'instituant, bien sûr, c'est un processus de négation d'un institué. Une contestation. Alors là, on est dans le digital, on est dans le discours. Hein. Et puis, en même temps, l'émergence, des émergences innovantes en matière de mode de fonctionnement, de mode de pensée. Hein. C'est ce que les gamins mutants nous montrent. Hein. Ils sont le lieu de processus émergents, à leur insu, évidemment. Hein. Toutes ces choses-là n'arrivent à la conscience qu'avec beaucoup d'efforts, et dans des moments comme celui-là, comme celui que nous vivons à l'heure actuelle. Donc on est en train de vivre une période où un instituant est en train de pousser dehors un institué. Et les instituants, bien sûr, à un moment ou à un autre, ils s'institutionnalisent. C'est-à-dire que ce qui était contestation, ce qui était émergence innovante, devient la norme. Ce qui était vécu comme déviance, ce qui est encore à l'heure actuelle, pour beaucoup d'entre nous, est souvent vécu comme déviance de la part en ce qui concerne les comportements d'un certain nombre d'enfants et d'adolescents, devient la norme. Et l'institution, ben, c'est le produit concret, c'est le moule. C'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, bien sûr. Hein. C'est que l'institution, c'est le moule de toute activité sociale. C'est-à-dire qu'on est, nous, dans ce moule, et nous sommes des éléments de ce moule, si j'ose dire. Alors, on va faire, bien sûr, une petite différence, toujours dans le registre des définitions, entre institution et établissement. Puisque, en général, je suppose qu'en Belgique, c'est un peu la même chose qu'en France, on utilise les deux termes de manière relativement indifférenciée. C'est comme ça aussi? Je travaille dans une institution? Ouais. Alors qu'on travaille dans un établissement. Mais bon. Effectivement, on utilise les deux termes de manière assez indifférenciée. Et donc, on va les différencier parce que ça va nous être utile. On travaille dans des établissements. Là encore, je vous parlais d'objets, de classe d'objets, tout à l'heure. L'institution, c'est une classe d'objets. Alors, ça veut dire quoi, classe d'objets? J'ai pas de feu. Donc, pas la peine. Ah si, il y a peut-être des feux. Mais oui, des feux. un petit dessin vite fait. Hein, mais... Peut-être que je vous l'avais déjà fait il y a 2-3 ans. Si je radote, il faut me le dire, hein, ça c'est important. Pour moi. Qui est passé par là. Je l'ai effacé avant que tout le monde soit choqué, sauf le premier rang. C'est d'ailleurs pas forcément un ado, ça peut être un vieil adulte obsédé. Hein.
Vous voyez là quelque chose ?
Non ? Est-ce que par hasard, vous, madame, vous avez des feux ? Ça, ce sont des objets, c'est-à-dire des individus spécifiques. Ces individus spécifiques, ils appartiennent à une classe d'objets. C'est quoi leur classe d'objets ? Qui suit. Siège. C'est la classe des sièges. Ça, c'est quoi ? Une armoire. Enfin, une armoire, quand même. C'est ça ? Une commode. Ce sont des objets spécifiques qui appartiennent à une classe d'objets.
Rangement.
Et ces classes d'objets appartiennent à une classe d'objets. Les meubles. Vous voyez l'emboîtement entre objets et classes d'objets. Alors, ça nous intéresse au quotidien, cette affaire-là, dans la mesure où nous avons... Nos connaissances en psychopathologie, par exemple, nous amènent à, si nous n'y prenons pas garde, à aborder les gens au niveau de leur classe d'objets. Et ça pose immédiatement un problème. Hein, c'est-à-dire que ça n'est pas monsieur ou madame un tel qui montre des comportements schizophréniques à qui j'ai affaire, c'est un schizophrène. Et ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire, c'est d'aborder les gens en termes au niveau de leur classe d'objets, délinquants, schizophrènes, dépressifs, etc., etc. J'exerce sur eux, à travers ce que Lévi-Strauss appelait notre efficacité symbolique. Lévi-Strauss, ce qu'il appelait efficacité symbolique, c'est le poids de notre parole professionnelle sur les gens qui ont affaire à nous. Ce qui relève d'un effet de pouvoir, on va le voir, de pouvoir institutionnalisé. Et ce pouvoir institutionnalisé, cette efficacité symbolique, que les gens le veuillent ou non, ceux qui sont en face de nous, ils y obéissent. Et quand j'aborde quelqu'un à partir de sa classe d'objet, je vais le contraindre à montrer des comportements adéquats. Savoir, je vais l'inciter à délirer si je le catalogue schizophrène, je vais l'inciter à se montrer complètement déprimé si je le catalogue dépressif, etc. Alors que nous savons tous, en tout cas les gens qui connaissent, qui ont travaillé du côté de la psychiatrie, savent bien que un schizophrène, si je puis dire, il ne passe pas sur la salive, il guérit. J'ai un certain nombre de schizophrènes à mon cabinet qui ne délirent jamais. On a des conversations très sympathiques et enrichissantes, et je ne les entends jamais délirer. Donc voilà, pour cette notion. Pour faire la différence entre ce qu'on appelle l'institution et les établissements. L'institution, c'est la classe d'objet. L'établissement, c'est les individus. Et bien entendu, les établissements sont l'espace dans lequel l'institutionnel s'exprime. Et c'est l'espace, les institutions sont l'espace dans lequel les normes et les valeurs institutionnalisées se pérennisent et se transmettent. Alors vous savez que, bien que votre personnalité de base vous incite à rester silencieux dans cet espace-là, j'espère que vous saurez la contrarier pour m'interrompre, pour objecter, me poser des questions, donner des exemples, me faire la contradiction, etc. S'il vous plaît. Donc, nous autres professionnels, qui travaillons, chaque fois que nous travaillons en établissement, d'ailleurs, en cabinet, les choses sont un peu différentes, mais bon, on va privilégier les établissements aujourd'hui. On est des effecteurs, on est des transmetteurs aveugles de ces normes et de ces valeurs. Et d'une efficacité redoutable. Donc tout nous échappe, c'est ça qui est assez intéressant et voire amusant. Je sais pas ce que j'ai fait de mon. On va parler de normes. Alors, il y a des choses que vous connaissez bien, j'imagine, normes, mythes, rituels. Ce sont des choses qu'on connaît tous bien. On va les revisiter sous cet angle-là. Alors, bien sûr, la norme. C'est ce qui, dans une société, correspond à l'usage général. Au droit. Tout ce qui est écrit là. Là, on est du côté de la norme visible, avec le code civil, le code pénal, les règlements dans les établissements, le code de la route, etc. Mais la norme, c'est aussi ce qui va constituer notre personnalité de base. C'est ce qui va prescrire l'éthos, c'est ce qui va fabriquer nos perceptions. Et bien sûr, la norme joue un rôle déterminant dans les comportements mutuels et dans le jugement qu'on peut porter sur le comportement des autres. Et ce qui nous amène à porter un jugement sur le comportement des autres, c'est précisément que nous sommes le siège de normes et de valeurs parfaitement intégrées. C'est-à-dire que, sans y réfléchir jamais, devant chaque comportement d'une personne en face de nous, nous sommes en mesure de porter un jugement positif ou négatif selon l'adéquation du comportement de la personne aux normes et aux valeurs dont nous sommes les porteurs inconscients. Le mythe, c'est plus compliqué. En tout cas, quand on va l'aborder sous l'angle institutionnel, ça devient compliqué. Ça m'a posé un certain nombre de problèmes que ça ne me posait pas avant. On peut voir les mythes sous l'angle de la carte d'identité des établissements. Chaque établissement, à sa naissance, si j'ose dire, voit émerger un mythe fondateur. Les mythes fondateurs dans l'établissement ont quelque chose d'assez surprenant dans la mesure où ils ont la peau dure. Beaucoup d'entre nous connaissent des établissements dans lesquels, depuis la naissance de l'établissement, plus d'un seul professionnel qui était présent à la naissance de l'établissement n'y sont, et le mythe fondateur est toujours là. Ça a la peau extraordinairement dure, les mythes fondateurs d'établissement. Tout comme les mythes fondateurs familiaux, comme certains mythes fondateurs familiaux, je dirais. Là-dessus, on peut avoir au fil de notre travail avec les familles des exemples assez intéressants de mythes familiaux qui, clairement, au départ, étaient, si j'ose dire, hein, était d'une belle utilité, si je puis dire, pour la famille en question, et qui, trois ou quatre générations après, devient parfaitement toxique pour la même famille, dans la mesure où les contextes ont suffisamment changé pour que ce mythe familial, qui était porteur, réellement porteur à un moment donné dans la famille, devienne un carcan source de symptômes. Il y a un très bel exemple qui avait été développé par Mara Selvini, je crois, dans les jeux psychotiques de la famille, il me semble. Alors, j'espère que vous avez tous lu les jeux psychotiques de la famille. Bien que, malheureusement, depuis des années, on ne trouve plus, il n'a pas été réédité. Alors, le mythe. Contrairement à la norme, la norme, nous avons toujours le sentiment, pour les normes connues de nous, c'est là tout le problème, c'est-à-dire les normes externes, si je puis dire, à savoir tout ce qui relève de la loi, code civil, code pénal, règlement, code de la route, etc. Ce niveau de normes, nous avons le sentiment qu'il nous pèse dessus de l'extérieur et qu'il nous faut nous y soumettre d'une manière ou d'une autre, et chaque fois que nous pouvons nous en abstraire, un temps soit peu, n'hésite pas à le faire. Il n'y a qu'à voir les libertés qu'on peut prendre avec le code de la route. Enfin, heureusement qu'il y a des marges comme ça par rapport à ces normes-là qui nous permettent de ne pas être écrasés par cet espace public. Et puis, ça, c'est le niveau qui nous est que nous ressentons comme externe à nous. Et puis, il y a un autre niveau de notre valeur qui est parfaitement intégré et qui, de ce point de vue, répond plutôt à la définition du mythe que de la norme. C'est quelque chose de... Ça m'a mis en confusion, cette affaire-là, quand j'ai commencé à travailler sur l'institution. Ça m'a mis en confusion dans la mesure où mythe et norme, à certains moments, se confondaient complètement. Alors que j'étais habitué, dans l'espace vertical, puisqu'on a un tableau, autant en profiter, j'étais habitué dans l'espace vertical qui est le nôtre, ce qui dessine un établissement est tout ce qui l'entoure. Si on prend simplement l'établissement, on a un directeur qui a un mythe de ce que c'est. Si on prend un établissement éducatif, un directeur qui a un mythe personnel de ce qu'est un bon établissement éducatif. Ce directeur, il a des chefs de service. Merci. Parce que c'est vrai que mon petit mouchoir, il allait bientôt rentrer là. Il a des chefs de service. Le mythe du directeur pour les chefs de service devient une norme. Ils sont bien obligés de s'y soumettre, sinon ils les virent. Le problème étant que les chefs de service, ils ont un mythe personnel de ce qu'est une bonne équipe éducative. Et ils ont, sous leurs ordres, sous leurs responsabilités, quelques équipes éducatives. Et chaque éducateur a un mythe de ce que c'est que la bonne éducation à diffuser auprès des enfants dont il a la responsabilité, qui va devenir une norme pour les enfants en question, parce qu'il va s'arranger pour qu'ils obéissent et s'y soumettent. Donc là, on est dans un système descendant où le mythe des uns devient une norme pour les autres. Ça, c'est ce qu'on voit à l'intérieur d'un établissement. Et bien sûr, le directeur, il a été embauché par, admettons, une association ou une fondation, qui elle-même a un mythe très puissant de ce qu'est la bonne éducation et un bon établissement. Il va falloir qu'il se soumette en tant soit peu s'il ne veut pas être licencié. Donc là, dans l'espace de hiérarchie verticale, on voit que mythe et normes s'emboîtent de façon assez lisible. Donc là tant qu'on était dans cet espace-là, j'étais plutôt à l'aise en me disant on voit très bien la distinction entre l'espace normique et l'espace mythique, la transformation du mythe en norme dans l'espace vertical, donc pas de problème. Et puis à partir de l'instant où on se pose la question dans l'espace de mutation, tout devient trouble. Enfin, en tout cas pour moi. À savoir donc que tout ce que nous transmettons à notre insu comme normes et valeurs, ça fait partie de nous. Ce sont des éléments intégrants de notre identité sociétale. Ce sont des morceaux d'organes pour nous. Et quand ce qui montre qu'il s'agit d'éléments identitaires pour nous, c'est que ce sont les réactions que nous avons quand nous avons le sentiment que c'est attaqué. Et quand ces valeurs et ces normes sont attaquées tout simplement par les comportements des enfants et des adolescents d'aujourd'hui, on voit bien les réactions des adultes à ça, sont des réactions de... Ils ont le sentiment que ça leur fait violence et ils contre-attaquent. Hein, donc on est bien devant une agression identitaire. Donc ça veut dire ça que ces normes et ces valeurs-là, à ce niveau-là, en tout cas, peuvent obéir à la définition du mythe, dans la mesure où un mythe, c'est quelque chose qui nous habite, dont nous avons le sentiment que ça nous construit et que c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Hein, la définition du mythe, la voilà, hein, c'est quelque chose d'assez fondamental pour nous, pour chaque humain. Hein, je ne pense pas qu'aucun humain puisse s'en passer. Hein. Puisque le mythe, ça nous donne notre identité. Hein. C'est un récit plein de trous, hein. À visée identitaire, hein, ça nous dit qui on est. Et puis, il a une visée opératoire, hein, puisqu'il nous dit comment nous devons nous comporter. Prenez simplement à un niveau tout simple, très, très quotidien, un mythe d'équipe. Les équipes, je ne parle pas d'équipes mutantes parce que les choses changent un petit peu, mais les équipes institutionnelles telles que nous avons pu les pratiquer, hein, dans une équipe institutionnelle, et donc pas seulement dans un établissement, dès l'instant où un groupe d'individus qui partagent les mêmes responsabilités et les mêmes tâches commence à danser ensemble, il émerge entre eux un mythe, une façon de danser. Une façon de danser, qui va définir ça, qui va leur dire qui ils sont et qui sont les leurs. Ça va leur faire savoir comment ils doivent se comporter avec les membres de leur groupe et avec les gens qui ne sont pas du groupe. Et puis ça a une visée explicative en plus, puisque ça va nous raconter nos origines et où on va. Si vous étudiez la manière de fonctionner d'une équipe, si vous regardez comment ça fonctionne sur un temps suffisamment long, vous allez voir que ça marche comme ça. Pendant des années, c'est le résultat de ces travaux-là, c'est dans l'éducateur spécialisé j'ai essayé de les expliciter. Donc bien sûr, là encore, le mythe, ça joue un rôle déterminant dans nos manières. Et dans nos comportements actuels, et dans les jugements qu'on peut porter sur les comportements des autres. Parce qu'il est clair que au sein des équipes, le mythe d'une équipe, c'est quelque chose qui la fonde et qui est important et vital pour elle, mais pour l'équipe d'à côté, ça peut paraître complètement débile. C'est-à-dire que le mythe des autres a toujours quelque chose, soit d'insuffisant, soit de risible, soit etc., etc. Donc on était habitué, en tout cas j'étais habitué à voir normes et mythes à l'intérieur de l'espace des établissements, à l'intérieur de l'espace institutionnel, mais pas dans un mouvement d'institutionnalisation, c'est-à-dire de destruction d'un modèle institutionnel et émergence d'un autre modèle institutionnel. Et là, effectivement, dans le mythe, ça devient assez difficile à distinguer. Effectivement, comme on est donc devant une machine complexe au sens propre du terme, c'est-à-dire difficile à modéliser. Alors, c'est vrai que quand on voit les réactions des populations au sens le plus large du terme, parlons de l'Europe, hein, façonnées XXe siècle. Quand je dis façonnées XXe siècle, ça inclut 18e et 19e, mais avec un certain nombre d'évolutions, sauf la forme d'intelligence, ça j'y insiste. Donc face à nos réactions face à nos jeunes populations, ça semble montrer que notre façonnement psychosociétal, ça obéit à la définition du mythe, puisque ça nous tient au corps, et que quand on a le sentiment que c'est agressé, on part à la bataille. Donc là, il est évident qu'effectivement, les normes et les valeurs dont nous sommes les récipients et les transmetteurs, c'est des organes pour nous. Hein, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe dans les écoles, dans les collèges, au niveau du collège en particulier, hein, c'est-à-dire les 12-15 ans, en France, c'est pire que tout. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous. Ça se passe bien au collège, chez vous, où les profs sont sympas, les enfants vont bien, tout le monde rigole. Non ? Oui ? Non, c'est galère aussi ? Parce que chez nous, c'est l'horreur.
La violence.
Hein, c'est-à-dire que chez nous, le collège de la République est devenu une machine à exclure. C'est-à-dire que elle vire sous des prétextes de comportement inadéquat, etc. etc. Hein, où on s'aperçoit dans ces moments-là, et c'est très intéressant, bien qu'inquiétant, hein, que ce n'est pas les notes qui comptent. Ce n'est pas les résultats scolaires qui comptent. Les résultats scolaires n'ont plus aucun intérêt dans les jugements des enseignants. Un autre jour, je reçois une petite famille très inquiète pour le garçon. Ils disent, voilà, il n'est pas loin d'être viré du collège, on est vraiment à deux doigts, on n'arrête pas de recevoir des coups de téléphone, des mots, etc. etc. Et on discute, et à un moment donné, je dis, puis en fait, ses notes. Ah ben, il a 16 de moyenne, tout le temps. Je dis, ah bon ? Ben oui. Mais il a des comportements insupportables. Alors, les comportements insupportables, c'est comme d'habitude. Hein, c'est-à-dire que quand un prof dit une connerie, il dit, monsieur, je ne sais peut-être pas comme ça. Hein. Il a 16 de moyenne, évidemment. Il a bien lu les bouquins. Des fois, le prof, il a sauté une page. Hein, donc, il dit, non, monsieur, à la page temps, c'est pas comme ça que c'est écrit. Peut-être qu'il faudra qu'on y réfléchisse.
Dehors !
Et illico, une note. Effectivement, les parents m'ont sorti les carnets de notes. Ils étaient choqués aussi, eux, hein, par cette incohérence, si je puis dire. Alors, effectivement, je voyais les notes 17, 16, 15, 17, 16, 15, 17, 16, 15. Et à côté, il y avait les annotations des profs, qui étaient comme ça à chaque fois. Et tous les ans, j'ai un train de boule que les parents m'amènent en voie d'expulsion, et où ce que je suis amené à faire avec eux, et de plus en plus, je le dis à bon d'ailleurs, hein, c'est leur apprendre à jouer les comportements attendus. Alors on rigole bien, je les mets dans le miroir, Maintenant, elle vient voir, et puis je leur apprends à jouer le comportement attendu, puis je leur dis, vas-y, joue ça, tu verras, les profs, ils vont foutre la paix. Et ça marche. Il y a encore 2 mois de ça, les parents m'amènent un mot, alors oui, il n'y a pas de bonne note, hein, ça faisait des années et des années, puis ils ne foutaient plus rien. Il était dans un lycée professionnel, quand je lui ai demandé s'il se rappelait à partir de quand les enseignants l'avaient dégoûté de l'école, parce que c'est une question que je pose toujours. Il me dit en CM1. Voilà. En CM1, c'est 9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, c'était mal engagé, si je puis dire. Donc il ne fichait rien, il apprenait pas ses leçons, il ne faisait pas ses devoirs. Et quand il arrive, il est entre ses deux parents, je le vois, il est comme ça. Hein, il est assis, avec les deux poings serrés. Et le front comme ça. Donc on s'apprivoise, etc. Et à un moment donné, je lui propose ce que je propose à tous les gamins dans ce genre de difficultés. On peut apprendre comme ça. Si votre truc, c'est de pouvoir tenir jusqu'au mois de juin, je peux vous donner un petit coup de main. Donc il voyait, il me dit, oh oui, d'accord. Donc, ce gamin, donc il ne foutait rien, il avait rendu aucun devoir, après aucune leçon depuis le début de l'année, certainement depuis l'année d'avant. Donc on va devant le miroir, comme ça, on tasse un peu le nez, sourire, et les mains, on les ouvre, etc., les épaules, les épaules, enfin, on rigole un petit coup, comme ça. Une fois qu'il a la bonne posture, à la fois détendue et légèrement soumise, parce qu'il ne faut quand même pas oublier ça, je dis, bon, c'est bon, là, vous avez bien regardé. J'ai essayé ça. 3 semaines après, ils reviennent, et avant que le gamin ouvre la bouche, les parents me disent, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais c'est la première fois depuis des années qu'il n'a pas été collé, qu'il n'a pas été renvoyé, qu'il n'est pas passé par le couloir, et qu'on n'a pas reçu de téléphone ni rien. Il n'avait pas rendu un devoir de plus, pas appris une leçon de plus. Il avait simplement eu le comportement attendu. Alors vous voyez la puissance de la personnalité de base, hein, savoir à quel point la personnalité de base est une machine identitaire, et à quel point elle est tellement une partie de nous que quand en face de nous, la danse n'est pas celle attendue par la personnalité de base, nous devenons violents et agressifs. Avec l'idée d'une violence défensive, évidemment. Mais c'est quand même extraordinaire. Extraordinaire, ça. Donc, on est devant une machine particulièrement complexe, où l'espace normique tel qu'il a été défini par les systémiciens, ceux qui s'y sont collés en premier, pour autant que je me souvienne, Robert Neuburger et Philippe Caillé, et d'ailleurs ils sont entrés dans un petit combat fratricide à un moment donné là-dessus, parce que c'est une sorte qu'elle était le premier à l'avoir dit, c'était assez rigolo de celui de l'air. Et là, on est devant une difficulté nouvelle, hein, où tout ce qui semblait clair se brouille complètement, au niveau du rapport norme-mythe à un. Au niveau qui est celui de l'identité. Alors, il est évident que les opérateurs, normes et mythes, ça n'a aucune consistance sans les rituels. C'est-à-dire que ce qui fait que ça existe, les normes et les mythes, c'est les rituels normiques et les rituels mythiques. C'est-à-dire que c'est ce qui les pérennise, ce qui les fait vivre au quotidien. Donc les rituels, bien sûr, c'est des ensembles de manières d'agir et d'interagir, qui sont, et là on le voit de manière flagrante, à travers l'exemple que je viens de vous donner, par exemple, on voit à quel point ces manières d'agir et d'interagir sont étroitement prescrites, et à quel point nous y obéissons sans le savoir. Alors pour le normique, comme je vous le disais tout à l'heure, classiquement, ça relevait de ce qu'on avait le sentiment de nous voir imposer l'extérieur, la loi, la loi, le code civil, le code pénal, le code de la route, etc. Et les rituels mythiques, à l'inverse, hein, c'est les manières d'agir et d'interagir telles que nous avons l'intime conviction que c'est les seules bonnes manières d'agir et d'interagir. Et c'est là que les choses se brouillent, puisque on voit bien que les bonnes manières d'agir et d'interagir relèvent de prescriptions sociétales. Ce qu'on appelle le psychosociétal, hein, semble bien fait d'un certain nombre d'installations, si je puis dire, hein, et de pérennisation de manières d'agir et d'interagir. Donc nous avons à ce moment-là le sentiment qu'il n'y a pas d'autres bonnes manières d'agir et d'interagir. Ce qui relèverait donc de la définition du mythe, selon ce qu'on en faisait il y a encore une vingtaine d'années. Alors, l'instituer, c'est-à-dire ce qui nous a fait nous, enfin, sauf les prémutants qui sont présents dans la salle, évidemment, ce qui nous a fait nous, donc 18e, 20e siècle, hein, avec ça relativement évolué, mais je dis bien seulement évolué, hein, c'est-à-dire pas transformé. Hein. Donc la façon d'exprimer nos émotions, notre façon de percevoir les choses, le monde, etc., la façon de nous représenter nous-mêmes, de représenter l'autre, de représenter le monde. Hein, toutes ces choses-là relèvent de l'institué, d'un institué. Et puis bien sûr, l'institué, il dit l'autorité, il dit ce qu'est l'autorité, comment elle fonctionne, il dit ce que sont les interdits, il dit ce qu'est la hiérarchie et comment elle fonctionne, etc., etc. C'est-à-dire que l'institué, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il fabrique une économie psychique, relationnelle et interactionnelle. On n'était pas habitué à le voir sous cet angle-là. Alors, le problème, à l'heure actuelle, je veux dire, c'est que un institué, dont la personnalité de base, l'éthos et l'éthos font partie, hein, c'est évidemment une machine aveugle. C'est une danse intégrée. C'est une danse qu'on n'a pas à penser pour la danser bien, si j'ose dire. Donc ces façonnements, cet institué, il a façonné, et on s'aperçoit que manifestement ça marche quasiment dès la naissance, parce qu'aujourd'hui, les petits mutants, ils n'ont pas 2 ans, qu'on voit déjà qu'ils ont les caractéristiques mutantes. C'est extraordinaire ça, la façon dont un instituant peut bousculer un institué en peu d'années. Là, je veux dire, au niveau historique, c'est rien du tout, une dizaine d'années. Comment en une dizaine d'années, on peut voir peu à peu, d'abord des enfants un peu grands, d'abord des adolescents, ou des enfants plus grands, et aujourd'hui des gamins de 2 ans, voir qu'ils montrent déjà toutes les caractéristiques du nouvel instituant. Ça, c'est un peu mystérieux. Mais on peut pas y échapper, hein, parce que je veux dire, demande aux dames de crèche, elles savent. Hein. Puis les jeunes mères, elles le voient aussi. Les dames de crèche, qui ont un peu de la pratique, elles disent toutes, tous les ans, chaque fois que je vais travailler dans des crèches, parce que ça continue, on me demande toujours de travailler dans des crèches, parce qu'elles savent plus faire avec ces gamins-là, hein, qui ont autorité sur eux, qui ont garde à égalité. Dès qu'ils savent parler, négocient, ils n'écoutent plus les consignes, il faut se justifier pour si on veut obtenir quelque chose d'eux à 2 ans et demi, etc., etc. Donc elles sont complètement dépassées par rapport à ça. Mais manifestement, c'est le nouvel instituant à l'œuvre. Et le problème pour nous, c'est que ce nouvel instituant, on ne peut le vivre que comme un écart à la norme de valeur. C'est-à-dire que comme une déviance. Et c'est là le problème à l'heure actuelle pour nous. Hein, quand je parle du pire et du meilleur, hein, quand j'ai commencé par le pire et le meilleur, à cause de ça, dans la mesure où, si nous ne sommes pas attentifs à cette dynamique de la disparition d'un institué au bénéfice d'un instituant, alors nous sommes seulement des défenseurs de l'institué mourant, dans l'espoir que cet institué va encore tenir le coup, mais le problème c'est qu'en même temps on sabote quelques générations. D'ailleurs, on ne les accueille pas, on essaye de les contraindre à rentrer dans notre vieux moule. Notre vieux moule qui est clairement obsolète. Alors, Francisco Varela, que j'aimais beaucoup, qui est malheureusement mort très prématurément, là encore, c'est quelqu'un qu'il faut lire. C'est pareil, L'arbre de la connaissance, un superbe bouquin, mais avec une pédagogie extraordinaire qui a été écrite par Maturana et Varela. Pareil, c'est chez Addison Wesley France, ça n'a jamais été réédité. J'en ai un exemplaire, mais quand je regarde sur Amazon, si on trouve en l'occasion, il est du genre à des prix de 300 euros, quelque chose comme ça, quoi. Donc il vaut mieux en trouver un que de photocopier. Ça vous reviendra moins cher. Mais c'est un bouquin extraordinaire du point de vue de la pédagogie et de choses qui sont, de mon point de vue en tout cas, les bases de ce que peut être de ce que peuvent être les fonctionnements d'un thérapeute systémicien. On va en parler un petit peu, je pense. Parce que j'ai beaucoup de mal à ne pas en parler chaque fois que je prends un micro. Donc on ne voit ce qu'on voit. On ne voit que ce qu'on voit, ça a l'air idiot, mais en fait c'est fondamental. Ça nous dit simplement ceci, que nous ne voyons que ce que nos modèles nous prescrivent de voir. On n'est pas habitué à cette idée-là, qu'on ne voit que ce que nos modèles nous prescrivent de voir. Et ce que nos modèles ne prescrivent pas de voir, on ne le voit pas, ça n'existe pas pour nous. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, ça. Ce sont des choses qu'on jouait des tours à des anthropologues. C'est-à-dire que les anthropologues, ils débarquent dans des sociétés qu'ils ne connaissent pas et ils ne voient que ce qu'ils voient, c'est-à-dire ce que leurs modèles leur permettent de voir. Et je me rappelle un anthropologue qui racontait qu'il avait fréquenté pendant plus de 10 ans une société traditionnelle comme ça, sans jamais voir un objet rituel absolument fondamental dans l'organisation de la société. Ben eux, ils ne le montraient non plus, hein. Ils expliquaient. Vous avez bien raison. C'est-à-dire l'objet en question, l'apparence de l'objet en question, pour lui, c'était un pouvoir qui traînait. C'est rien d'autre. Alors que c'était un objet central dans un rituel fondateur de cette société et dans l'organisation quotidienne de cette société. C'est-à-dire que l'anthropologue en question, c'est le poser plein de questions sur le « on voit qu'est-ce qu'on voit ». Alors, je parle d'anthropologie, c'est vrai que les anthropologues nous ont habitués maintenant à des descriptions de personnalités de base différentes de la nôtre dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures. Le problème pour nous à l'heure actuelle, c'est que ça se passe sous notre toit. Et ça se passe sous notre toit et avec nos propres enfants. Donc c'est de l'anthropologie endotique, hein, non pas exotique, à laquelle on n'est pas trop habitué, hein, si je puis dire. Sous nos propres toits. Et quand on voit que ce qu'on voit, là aussi, le fait que les objets visuels obéissent à des règles éthologiques, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, de la même façon, on n'a aucun recul par rapport à ça. C'est la place des objets, un point, c'est tout. Quoi. Les objets doivent être là et pas ailleurs. Et quand ils sont ailleurs, ça relève d'une déviance. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là, mais il a pu vous arriver une fois ou l'autre, en vacances, je ne sais pas où, de craquer pour un objet qui ne relève pas de votre espace identitaire. Bon, vous craquez, vous l'achetez, vous le mettez chez vous, vous invitez des copains, vous dites « Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça fait chez toi ?» Instantanément. Ça ne relève pas de vos rituels d'appartenance. Parce que pour nous qui sommes appartenanciers, tous les objets de nos centres doivent avoir cette caractéristique appartenancière, donc être un marqueur de nos appartenances. Et cet objet-là, il n'a rien à faire là. Et les amis nous le font instantanément savoir. Pourquoi t'as acheté ce machin-là ? Alors que dans un autre espace appartenantiel, il aurait sa place. Ou pour le chapeau des messieurs, les casquettes des mutants, je vous en avais déjà parlé, vous vous rappelez, j'imagine ? Un petit rappel ou... Parce que c'est une illustration, parfois douloureuse d'ailleurs, hein, de la place des objets et de la règle éthologique auxquelles ils obéissent. Ah ben tiens, j'ai un chapeau aujourd'hui, je peux faire vidéo avec. Oui. Si j'avais gardé mon chapeau pour vous parler, il y a un moment déjà que vous seriez mal à l'aise. Ça vous aurait fait quelque chose ici, parce que c'est quelque chose qui se vit, hein, c'est pas quelque chose qui se pense. Ça aurait fait quelque chose ici, puis vous auriez commencé, comme ça vous aurait rendu perplexe, vous auriez commencé à vous faire des théories. On croyait le connaître. Bon, à son âge, évidemment, on peut déjanter. Etc. Mais bien sûr que vous auriez pensé des choses comme ça. Parce que quand on est mis en perplexité, ce sont un peu, vous savez, la dissonance cognitive. On se trouve vite une théorie pour ne plus être perplexe. Donc là, je vous fais confiance, vous m'auriez rhabillé quelque chose de bien. Pour une simple raison, c'est que les chapeaux des messieurs obéissent à des règles éthologiques strictes. Et qu'il est clair que un chapeau ne doit pas être sur la tête d'un homme quand il est dans une salle en train de parler à un certain nombre de personnes comme vous. Ça va de soi. Vous voyez, c'est là que ça se passe. Quand ça se passe là, c'est que c'est une attaque identitaire. Quand ça se passe là, c'est où ça se discute. Alors, pour nous, donc, le chapeau des messieurs, c'est un marqueur de politesse et un marqueur hiérarchique. C'est entre messieurs, la valse des chapeaux, ça montre le rapport hiérarchique entre les messieurs. Donc pour nous, le chapeau, le couvre-chef des messieurs obéit à ces règles-là, donc il est clair que la casquette des mutants doit obéir aux mêmes règles. Donc quand un mutant garde sa casquette pour nous parler, en plus le mutant c'est un jeune, et que dans notre monde, les jeunes sont des inférieurs hiérarchiques, des adultes. Dans le vertical hiérarchique, on l'oublie toujours parce que ça nous chagrine un petit peu aujourd'hui, notre côté moralisateur et culpabilisé, nous amène à refuser l'idée que nous traitons en permanence les enfants et les adolescents comme des inférieurs hiérarchiques. Alors que nous le faisons tout le temps. Je donne toujours le même exemple. Ce soir, en rentrant, vous dites à votre conjoint, va te laver les dents. Vous allez voir, il y a peu de chance pour que ça l'enchante. Alors qu'on n'a aucune hésitation pour dire ça au mot. On voit bien là, que rien que la forme de l'allocution et le ton montrent qu'on s'adresse à un inférieur hiérarchique et ce qu'on n'oserait jamais faire à un égal. Donc, voilà-t-il pas qu'un adolescent, notre inférieur hiérarchique par principe, garde sa casquette sur la tête pour nous parler ? C'est une agression. Une agression. Mais où est-ce qu'il a pris la politesse ? La froid à la tête, enfin, selon du moment. Et on va s'arranger, effectivement, pour lui faire comprendre que c'est de l'impolitesse, etc. Impolitesse, là encore, on est face. C'est là que nous sommes des transmetteurs de normes et de valeurs à notre insu. Parce que ce que nous transmettons en lui disant « Où est-ce que tu as appris la politesse ?» c'est « Tu as oublié que tu es un inférieur hiérarchique des adultes et que en tant qu'inférieur hiérarchique, tu dois enlever ta casquette quand tu me parles. » C'est très marrant. La semaine dernière, je vais chez un tailleur de pierre pour lui commander quelque chose. Et ce tailleur de pierre exploite une carrière qui appartient à ma famille. Donc à moi et à mes frères. Et ils ne le connaissaient pas. Donc il commence, on était dehors, hein, donc, il commence avec sa casquette à observer monsieur, hein, il a à peu près mon âge. Il commence avec sa casquette, et puis à un moment donné, je lui dis si vous pouviez utiliser le bien de notre carrière pour le faire, ça me ferait plaisir. Et il me dit ah bon. Comme ça. C'est quand même quelque chose, hein. Mais comme ça. Et on a fini la conversation avec la casquette sur le ventre. Mais à quel point ça a intégré. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il voyait un truc IRC, j'étais le propriétaire du truc, quoi, pour lui. Hein, dans nos générations, manifestement, c'est important.
Est-ce que je peux te suggérer de faire une pause
café? Oui. C'est le moment?
Oui.
Oui.
On prend
donc,
tout.
Hein, pour vous rappeler donc, que nous, on va sentir comme une agression le fait qu'un ado garde sa casquette sur la tête. On va s'arranger pour lui faire comprendre que les normes et les valeurs dont nous sommes les récipiendaires et les transmetteurs, doivent s'appliquer à lui. Voilà, on fait une petite pause. Thank you.